franceinter.fr.
Le journal Alain Passerelle, bonjour.
Bonjour. Au sommaire cette édition, le grand démantèlement qui a commencé, celui de la jungle de Calais. Les premiers autobus chargés de migrants volontaires sont partis vers 8h ce matin pour rejoindre les centres des régions qui les accueilleront. Pour l'instant, tout se passe, semble-t-il, dans le calme. Invité de ce journal, le secrétaire départemental du Secours catholique de Calais qui suit ces opérations. La colère des policiers, Bernard Cazeneuve est au commissariat de Rouen ce matin. Dans de nombreuses villes, les syndicats ont été reçus en préfecture. Nous irons à Toulouse. Comment lutter contre la radicalisation? Première rencontre nationale État-collectivité à Paris. Nous écouterons l'exemple de Chalon-sur-Saône. La Belgique fait de la résistance. Elle a jusqu'à ce soir pour approuver le CETA, le grand traité commercial de l'Union européenne avec le Canada. 7 années de négociations qui pourraient être réduites à néant. Dans cette édition également, la 5e vague du choc de simplification voulu par François Hollande. Les enfants défavorisés auxquels on apprend gratuitement à nager. Et puis un peintre méconnu à découvrir au Palais du Luxembourg, Fantin Latour. Le temps aujourd'hui, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Alain.
Un début de semaine agité.
Oui, avec le passage d'une perturbation, c'est souvent la pluie qui vous attend aujourd'hui. Des Pyrénées au Roussillon à l'Auvergne jusqu'en Champagne et en Lorraine. Les pluies sont localement soutenues, en particulier vers le Massif central, la Bourgogne et aussi les Cévennes. À l'arrière de ce front, plus à l'ouest, les nuages resteront prédominants et s'accompagneront d'averses. Mais on peut espérer de plus larges éclaircies sur la pointe bretonne. Et puis sur les régions de l'Est, les nuages sont tout aussi nombreux, mais le temps restera sec, hormis sur les Alpes du Sud et l'Est de la Corse, et ce sera un peu plus lumineux sur le Sud-Est. Et puis en Corse, sous l'effet du Sirocco, l'Ouest de l'île sera bien ensoleillé, le mercure va s'envoler jusqu'à 28 degrés attendu à Ajaccio cet après-midi.
Pas de Sirocco au nord, il fera beaucoup plus frais.
Non, seulement 11 degrés à Lille, 13 au Havre, 14 à Paris et 15 degrés à Rennes et Nancy. Un petit peu plus de douceur sur le Sud, 18 degrés pour Cognac, 22 à Nice, 23 à Lyon et 25 à Marseille.
Et ils ont parcouru des milliers de kilomètres au péril de leur vie pour tenter de gagner un monde qu'ils pensent meilleur. Ils vont en refaire cette semaine plusieurs centaines en car pour rejoindre une ville ou un village français dont ils ignorent tout. Le grand déménagement a donc débuté ce matin à Calais. C'est parti pour l'évacuation de la jungle. Plusieurs milliers de personnes qui vivaient dans le plus grand bidonville de France vont pendant plusieurs jours gagner des CAO, des centres d'accueil et d'information, 280 au total, disséminés sur tout le territoire ou presque. Une opération présentée comme humanitaire visant à mettre à l'abri entre 6500 et 8000 exilés. Une tâche énorme. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Alain.
Thibault, vous assistez depuis ce matin à cette nouvelle migration, en quelque sorte. On n'a jamais vu ça en France, une opération d'une telle ampleur. Comment ça se passe ?
C'est assez massif, hein, des centaines de migrants répartis en 4 files. C'est assez organisé, la première pour les personnes vulnérables, la deuxième pour les familles, la troisième pour les mineurs et la dernière pour les majeurs. C'est là qu'on trouve la plupart des migrants. Ce sont des hommes seuls, des hommes pauvres qui ont abandonné leur rêve d'Angleterre, soit par dépit ou faute de pouvoir payer un passeur. Beaucoup de Soudanais, d'Érythréens, quelques Afghans. Ils sont entourés par de nombreux, très nombreux CRS et des centaines de journalistes. Ils se poussent, ils s'invectivent. Certains lancent leurs bagages par-dessus la grille pour essayer de prendre coûte que coûte un bus. Sadiq est afghan, il a passé 3 heures dans la file.
Look outside, what is going on?
Regarde dehors ce qu'il est en train de se passer. Il n'y a pas d'ordre, la police est obligée de surveiller. Tout le monde se pousse, se rentre dedans, ça ne se passe pas bien. On est content de quitter la jungle, mais pas de cette façon-là. La jungle s'est terminée, personne ne va rester là.
Grand Est.
Direction le Grand Est donc pour Sadiq, il vient de passer le sas de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il est accueilli par Frida. Avec son gilet rouge, cet agent de l'OFI a quelques secondes seulement pour présenter à chaque migrant une carte de France.
On est en train d'aiguiller les gens. On leur propose 2 choix. Dans ce cas-là, vous avez le pays de la Loire et le Grand Est. Ça change. Et donc, on propose selon les groupes, selon les personnes. Donc ici, normalement, ils prennent un choix. Là.
Sadiq donne ensuite son identité, une liste de noms que gère Jérémy, assis face à son ordinateur. Le jeune homme est dépassé par l'ampleur du mouvement. Il se dit triste et frustré.
Je trouve ça étrange, vraiment. Le fait d'envoyer des centaines, des milliers de personnes comme ça, qu'on ne connaît pas. Et ils nous donnent juste leur nom, d'où ils viennent. Et on les envoie dans des régions que nous-mêmes, on ne connaît pas forcément. Donc c'est quelque chose qui est... J'aimerais pour ne pas être à leur place.
Encore une bonne demi-heure d'attente. Sadiq prend un des 60 bus prévus pour aujourd'hui. Seuls les mineurs isolés restent dans la jungle. Ils sont hébergés dans des containers du centre d'accueil provisoire en attendant que les Britanniques et les Français se mettent d'accord sur leur sort.
Merci Thibault. Thibault, à vos côtés, le chargé de mission étranger pour le Secours catholique Caritas France. Bonjour Vincent de Coninck.
Bonjour.
Votre sentiment sur ce qui se passe à Calais depuis ce matin, calme et maîtrise, affirmé tout à l'heure Bernard Cazeneuve, vous avez ce sentiment ?
Écoutez, jusqu'ici, les choses se passent plutôt paisiblement, puisque comme on le disait, il y a bon nombre d'exilés ici sur le bidonville qui ne cherchaient pas à passer en Angleterre, mais qui sont des demandeurs d'asile et qui d'ailleurs a essayé d'obtenir une place dans ces centres d'accueil et d'orientation depuis longtemps. Donc ce sont ces personnes qui aujourd'hui se précipitent pour essayer d'avoir enfin un hébergement. Il faut quand même rappeler que au regard du droit français, ils auraient dû être hébergés depuis le début de leur demande d'asile. Donc en effet, c'est ce à quoi on assiste depuis ce matin. Peut-être que les choses seront plus tendues lorsqu'on s'adressera à des personnes, et j'en ai rencontré encore ce matin, qui refuseront d'aller dans ces centres et qui ne souhaitent pas abandonner leur projet de Grande-Bretagne.
Ce qui se passe là, c'est pour vous une véritable rupture dans cette politique de migrants, une évolution normale, vous qualifieriez ça comment ?
Écoutez, le Secours catholique Caritas France, comme bon nombre de ses partenaires, n'a jamais défendu le bidonville. Je pense qu'il faut le rappeler. Cependant, nous aurions souhaité une opération différente, dans le temps et avec, au préalable, un diagnostic individuel de chaque situation. C'est ce pourquoi nous avions saisi le juge du tribunal administratif de Lille, qui a jugé que les autorités apportaient des garanties suffisantes. Nous verrons. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions vraiment qui nous tiennent vraiment à cœur. La première, c'est la non-coercition. Que va-t-on faire des personnes qui ne souhaiteront pas monter dans les bus ? Est-ce qu'elles pourront partir librement ou est-ce qu'elles seront placées systématiquement en centre de rétention ? Nous le verrons dans les heures et les jours qui viennent.
Dans les jours qui viennent, probablement.
Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en effet, ce sont d'abord ceux qui attendaient de pouvoir partir qui partent. Deuxième élément important pour nous, c'est l'accueil et l'accompagnement qui va être fait de ces personnes dans les centres d'accueil et d'orientation. Bon nombre de ces personnes sont ce qu'on appelle dublinées. Pour que nos auditeurs comprennent, ça veut dire qu'elles ont des empreintes dans un autre pays européen. Est-ce qu'on va leur permettre d'accéder au process normal de demande d'asile en France tout de suite dans ces centres, ou est-ce qu'on va tenter de les renvoyer dans ces pays tels que l'Italie ? Le ministre nous a promis qu'elles pourront poursuivre leur demande d'asile en France. C'est une promesse à laquelle nous serons très attentifs. Et la troisième grande question, c'est quid de la pérennité d'un lieu d'accueil ici à Calais ? Le bidonville va disparaître, pas les migrants.
Oui, le problème, c'est
l'accueil qui restera après-demain à Calais.
Voilà, parce qu'il arrive,
voilà,
il
c'est
va
une question
toujours
pour nous très importante, parce que
il va toujours arriver,
oui,
des migrants, n'est-ce pas ?
Des gens vont arriver, des gens sont là et ne souhaitent pas partir, des primo vont arriver à nouveau. Quel va être le dispositif qui va permettre à ces gens d'être hébergés, mis à l'abri et accompagnés ? Si il n'y a aucun dispositif de prévu et nous n'avons pas eu de réponse claire et explicite à cette question, c'est un retour en arrière de plusieurs années. On sera sur une opération uniquement sécuritaire, puisqu'on retrouvera, nous, des familles, des femmes, des enfants, des jeunes hommes dans les fossés, dans des squats, dans des jungles.
Et votre action ces prochains jours, à vous, Secours catholique, et à toutes les associations, ça va être d'être attentif à ces nouvelles arrivées ?
Bien sûr, nous tiendrons aux côtés des exilés qui sont là aujourd'hui et qui arriveront demain, comme nous le faisons depuis plus de 10 ans maintenant. Nous espérons avoir une réponse claire et explicite très rapide sur quel sera le dispositif d'accueil qui va être maintenu sur le Calaisis. Et à plus long terme, nous avons vu que dans l'optique là, du démantèlement, les autorités ont su trouver des accords avec les Britanniques pour ouvrir des voies de légal de passage. Nous espérons que ces dispositifs vont être pérennisés et que, à nouveau, demain, les enfants qui arriveront sur Calais, les femmes qui, par exemple, ou les familles qui ont des proches en Grande-Bretagne pourront continuer à rejoindre ses membres de leur famille de façon légale et sécurisée, de la même façon que on a su l'organiser là pour vider le bidonville.
Merci Vincent de Coninck, je rappelle chargé de mission étranger pour le Secours catholique Caritas France. 280 centres d'accueil donc qui s'apprêtent à voir arriver les réfugiés de Calais, ainsi la Bretagne qui doit en accueillir 600 à Cancale, à Fougères et dans bien d'autres communes d'Ille-et-Vilaine ou encore du Morbihan, à la Guerche de Bretagne. Ils sont déjà une cinquantaine à être hébergés. Accueil temporaire, ils doivent rester 3 mois au plus. Des bénévoles apportent leur pierre à l'édifice. Ainsi Anne-Marie, salariée agricole qui donne des cours de français aux migrants. Elle est là aussi, et c'est important, pour leur présenter son quotidien.
On commence toujours par un tour de ferme, oui. Normal, et c'est trop drôle, quoi, parce que eux, ils sont habitués avec une ou deux vaches, et quand ils voient la stabule, la salle de traite, bah, ils découvrent. Bon, certains posent des questions, s'intéressent de savoir combien on vend une vache, parce que, par exemple, en Afghanistan, les vaches, les Holstein, là, sont très très chères. Après, on s'installe ici, on fait du français, on essaye de faire du français, et puis des fois, je les laisse tout seuls là aussi, et ils font ce qu'ils veulent. C'est important parce que c'est des lieux assez isolés, mais calmes, et pour eux, je crois que c'est bien, parce qu'ils vivent quand même à 5 ou 6, voire 7 dans chaque appartement et toujours entre eux. Et des fois, c'est pas évident non plus. Hein. C'est vraiment prendre l'air et ils restent aussi dans la maison, écouter de la musique. Moi, je travaille dehors. Si on veut vraiment les intégrer, il faut ajouter autre chose que le gîte et le couvert.
Anne-Marie, au micro de Camille Revel, on apprend qu'un futur centre d'accueil et d'orientation situé à Loubéra, dans le Puy-de-Dôme, a été légèrement endommagé par un incendie volontaire la nuit dernière. L'évacuation de la jungle de Calais, c'est à suivre en temps réel, en son et en images sur franceinter.fr. Cinq Français partant pour un vol, de reconnaissance des douanes françaises en Méditerranée sont morts ce matin dans l'accident de leur petit avion au décollage à Malte. Ils devaient effectuer donc un vol de surveillance, des trafics de migrants justement et de drogue et revenir à Malte au bout de quelques heures. Mais l'avion s'est écrasé quelques secondes après son décollage.
France Inter. Alain Passerelle.
La colère des policiers est probablement toujours aussi vive, mais elle tend, semble-t-il, à moins s'exprimer dans la rue. Il y a encore eu des manifestations la nuit dernière, à Marseille, à Nice, à Nancy ou encore Boulogne-sur-Mer, mais aucune en région parisienne. Peut-être la conséquence de l'entretien qu'ont eu deux de leurs collègues hier avec Bernard Cazeneuve, qui selon eux les a non seulement écoutés, mais entendus. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu ce matin au commissariat de Rouen avec à ses côtés le chef de la police nationale, Jean-Marc Falcon. Pour l'instant, rien n'a filtré. Ce matin, dans de nombreuses villes de France, les syndicats policiers ont été reçus en préfecture. C'était le cas à Toulouse. Stéphane Iglesis.
Les syndicats policiers ont été reçus en urgence et sur ordre du gouvernement ce matin par le préfet de la région Occitanie. L'occasion pour Luc Escoda, secrétaire régional d'Alliance, de faire avancer une réforme de la légitime défense.
Par exemple, il ne faut pas attendre de prendre une balle pour pouvoir répliquer. La proportionnalité de l'arme, par exemple, quand on se fait attaquer par une dizaine d'hommes avec une barre de fer, on peut riposter avec une autre arme. Et aujourd'hui, ce n'est pas proportionnel, si vous regardez bien. Donc il y a vraiment la notion de danger imminent pour faire cesser un danger. Les collègues sont vraiment coincés dans ce carcan-là, n'osent pas se servir de leur arme, et bien souvent c'est au détriment de leur sécurité.
Autre point dur, l'anonymisation des procédures pénales en mettant le matricule à la place du nom du policier. Pour Didier Martinez de SGP Police, il faut aussi enlever les tâches indues.
Prendre des procurations pendant des semaines entières, des dizaines de policiers seront consacrés à ces missions. Il y a également les points statiques, les tâches où les policiers sont affectés des heures durant à garder des bâtiments ou à garder des détenus hospitalisés par exemple, énormément de missions qui sont extrêmement dévoreuses d'effectifs et qui enlèvent de l'effectif de la voie publique et des missions prioritaires.
Enfin, un cahier recensant les demandes locales sera réalisé d'ici la mi-décembre pour obtenir rapidement de nouveaux moyens pour la police. Toulouse, Stéphane Iglesis, France Inter.
Difficile de s'y retrouver dans cette protestation policière. Les syndicats, disons classiques, appellent à des rassemblements tous les mardis à la mi-journée devant les palais de justice. Le syndicat SGPFO qui fait cavalier seul appelle à une marche silencieuse mercredi. Et puis les policiers de base ont appelé ce matin à un rassemblement demain à 14h devant l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que des représentants syndicaux seront reçus après-demain par François Hollande lui-même. Parmi les revendications des policiers, l'exigence d'être mieux protégé, judiciairement notamment. Ce matin, l'hôpital Saint-Louis fait savoir que les deux policiers gravement brûlés lors de l'attaque au cocktail Molotov à Viry-Châtillon sont hors de danger, mais que le traitement de leurs séquelles va être long. Bernard Cazeneuve, décidément sur tous les fronts. Comment prévenir la radicalisation? Le ministre de l'Intérieur a ouvert ce matin à la Cité des Sciences et de l'Industrie les premières rencontres nationales État-collectivité autour de ce thème. C'est Manuel Valls qui ce soir les clôturera. Sur tout le territoire français, 13 000 personnes ont été signalées comme radicalisées, à différents niveaux évidemment, dont 2 000 mineurs, dont une majorité de jeunes filles ou jeunes femmes. Comment les acteurs de terrain, notamment les maires, peuvent-ils intervenir? Un exemple avec Chalon-sur-Saône, l'une des premières villes à s'être dotée d'une cellule d'échange sur la radicalisation. Interrogé par Mathilde Deimy, son maire, Gilles Platré, nous livre quelques recettes.
On a formé une trentaine d'agents que nous appelons des agents capteurs, qui sont en lien directement avec le public la plupart du temps, et qui, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent être amenés à repérer un certain nombre de ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des indices de radicalisation. Ça peut être dans la tenue vestimentaire, ça peut être dans les propos qui sont tenus, ça peut être dans les habitudes alimentaires. Généralement, il faut qu'il y ait addition de plusieurs signaux faibles pour vraiment que l'indice soit fort. Et une fois par mois, nous nous réunissons dans mon bureau, le sous-préfet de l'arrondissement, le commissaire de police, le responsable du renseignement territorial, le chef de la police municipale et moi-même. Et à partir de là, cas par cas, nous allons porter à connaissance des services de l'État les profils qui potentiellement peuvent poser souci. Nous avons fait remonter une quinzaine de cas et à la suite de ça, le renseignement territorial s'en est saisi. Donc nous ne demandons pas a priori la communication de l'ensemble des fichiers S de la ville. Voilà. L'État a le premier rôle à jouer. Il est à même de juger si certains cas doivent être portés à connaissance de la commune.
Un traité négocié depuis 7 ans, approuvé par les représentants de quelques 500 millions de citoyens européens et qui pourrait capoter par la volonté de ceux qui en représentent 3 millions. Est-ce bien raisonnable? Le CETA, le gigantesque accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, est en sursis jusqu'à ce soir. La Belgique doit l'approuver, sinon il sera jeté aux orties. Ce matin encore, le chef de l'Assemblée wallonne a redit que le Parlement wallon refusait de se plier à tout ultimatum adressé par les autorités européenne. Une réunion de la dernière chance a débuté il y a quelques minutes avec le Premier ministre Charles Michel et les entités régionales belges. Christophe Collignon, le chef du groupe socialiste au Parlement de Wallonie, au micro de Laxmi Lotha.
Je pense qu'en démocratie, les ultimatums ne sont pas des façons de travailler. Il est clair qu'on ne répondra pas dans le délai requis. On va d'abord à nouveau réaffirmer nos positions et je pense que si l'Europe veut travailler sereinement et se rapprocher de ses citoyens, ben il faut respecter aussi la démocratie. Nous allons fournir un contre-argumentaire, comme nous l'avons toujours fait, de manière constructive. Et puis ce sera à la Commission de reprendre la main et de voir s'il est possible de nous rassurer au point de vue juridique sur les avancées. En tout cas, le Canada, lui, était prêt à le faire. C'est ça qui est un peu singulier maintenant, c'est que la balle est plutôt dans le camp de la Commission. Je pense que d'ici jeudi, ça me paraît un peu compliqué à partir du moment où les journées ne font que 24 heures.
Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Vous êtes à Bruxelles. À cette heure-ci, y a-t-il encore une chance de voir Justin Trudeau franchir l'Atlantique jeudi pour signer le traité?
Alors qu'il est, c'est assez peu probable, mais en tout cas, les tentatives se poursuivent bien ici. Le Premier ministre fédéral, le libéral wallon Charles Michel, entre aujourd'hui directement dans le jeu. Rien de surprenant d'ailleurs à cela, puisqu'en fin de compte, c'est sa signature seule qui valide tout traité international au nom de la Belgique. Il a, en début d'après-midi, un tête-à-tête avec le ministre-président wallon, la désormais cyber-vedette, le socialiste Paul Magnette, avant, vous le disiez, de convoquer le comité fédéral de concertation qui réunit les 6 entités fédérées qui composent le royaume. Parmi celles-ci, celle des Flamands est énergiquement favorable au CETA, celle des Wallons et celle des francophones y sont opposées. Le Parlement bruxellois s'est déclaré opposé en juillet, mais ce vote ne tient évidemment pas compte des négociations postérieures. Alors que le gouvernement bruxellois, qui redoute une fracture de sa coalition, reste prudemment en retrait, tout comme la communauté des 76 000 Belges de langue allemande, pourtant implantée sur le sol wallon. C'est une façon de dire que le sort au moins immédiat du CETA dépend de la machinerie constitutionnelle belge, qui est, on le constate une fois de plus, d'une confondante complexité.
Alors au-delà de ce traité, Quentin, chacun s'interroge sur les conséquences de cette obstruction. L'Europe, dit-on, joue sa crédibilité, rien de moins.
Rien de moins, en effet, car pour l'Union européenne, deux questions de fond se posent. D'abord, faut-il soumettre à la ratification des parlements nationaux et éventuellement régionaux les accords négociés et conclus au nom de l'Union européenne en tant que telle avec des pays extra-européens, alors que seule la signature des gouvernements européens est requise? Ne pourrait-on soumettre aux parlements nationaux, par exemple, que la partie généralement réduite du texte proposé qui relève effectivement de la compétence nationale? Autre interrogation, est-ce l'épisode wallon, surgi à la 11e heure d'une négociation avec un partenaire politiquement et culturellement proche, est-ce que cet épisode wallon n'est pas de nature à refroidir tout autre pays de la planète avec qui l'Union européenne aurait l'intention de négocier? Une telle tendance serait fatale à la capacité de la Commission européenne à négocier au nom de l'ensemble des pays membres, qui n'auraient alors d'autres ressources que de négocier séparément sur une base évidemment bien moins favorable que dans le cas du tiers groupé qu'autorise l'appartenance à l'UE.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Dans cette Europe qui a bien du mal à s'entendre, voici un pays qui joue là aussi sa crédibilité politique. Deux élections législatives et toujours pas de majorité pour créer un gouvernement en Espagne. Voilà 9 mois que ça dure, mais hier le Parti Socialiste a décidé de laisser le conservateur Mariano Rajoy former ce gouvernement tant attendu. Le roi Felipe a reçu ce matin les dirigeants des partis. On revient en France avec les promesses de François Hollande. On n'a pas oublié le choc de simplification souhaité par le chef de l'État. Même sans être atteint de phobie administrative comme certains, chacun dans son domaine le souhaite, ce choc. 4 vagues de mesures ont déjà été annoncées. La 5e l'a été ce matin à Bercy. Où vous vous trouvez, Emmanuel Ruffez?
Eh bien voilà, oui, tout un train de nouvelles mesures pour les entreprises, 49 précisément, qui viennent se rajouter aux centaines déjà en application depuis 2013. Alors, on va en citer très rapidement quelques-unes, comme le rapprochement des normes d'aménagement entre les gares, les aéroports et les centres commerciaux, dans le but de voir naître de nouveaux projets et donc de créer des emplois. Même chose pour une simplification du permis de construire des éoliennes terrestres intégrées dans l'autorisation environnementale. Ça simplifie les procédures pour gagner du temps et là encore créer des emplois. Enfin, dernier exemple, pour les jeunes entreprises innovantes, elles pourront bénéficier d'exonérations sociales sur simple déclaration sur l'honneur. Alors, tout cela peut vous paraître très administratif et très technique, mais l'effet de ces mesures, toutes mises bout à bout, a été chiffré ce matin par les experts du cabinet Ernst & Young, et on arrive à un gain potentiel de 5 milliards d'euros pour les entreprises quand l'impact de ces mesures sera à son plus haut niveau. Il y a trop de normes, trop de textes, trop de lois, trop de règlements et trop d'arrêtés, encore martelé ce matin Jean-Vincent Placé, le secrétaire d'État à la simplification. Il faut redonner à nos entreprises les moyens d'être compétitives en les allégeant de toutes ces charges administratives. À Bercy, Jean-Marie Porcher, Manuel Ruffez, France Inter.
Les Français de plus en plus sceptiques, sinon méfiants, vis-à-vis des vaccins. C'est une enquête de l'Observatoire sociétal du médicament, réalisée par Ipsos. 69% seulement des personnes interrogées font confiance au vaccin. C'est 2% de moins que l'an dernier. 52% considèrent que la vaccination présente plus de bénéfices que de risques. Pour minimiser les risques de mortalité liés à la période de sommeil, comme le syndrome de la mort subite, les nouveau-nés devraient dormir dans la chambre parentale pendant au moins les 6 premiers mois. Ce sont les recommandations de l'Académie américaine des pédiatres. Précisément, elle estime que cette mesure réduirait de moitié cette mortalité particulière et dramatique. La Cour des comptes, très sévère à l'égard de France Télévisions, dans un rapport paru ce matin, elle estime que depuis 2009, elle a laissé la situation financière se dégrader et qu'il est désormais impératif de réformer en réduisant les charges. Elle affirme que les salaires ont dérapé, notamment chez les journalistes, qu'il y a trop d'absentéisme. Elle dénonce des pratiques parfois douteuses pour l'achat de programmes et du retard sur le numérique. La Cour formule 23 recommandations dont la réduction du nombre d'antennes régionales et le rapprochement avec le réseau France Bleu de Radio France, ainsi que la fusion des rédactions nationales. Les journalistes d'ITélé sont toujours vent debout contre Jean-Marc Morandini, dont ils demandent le départ. La grève a été reconduite ce matin avec 85% des voix jusqu'à demain, 11h30. Comme un poisson dans l'eau, la 3e édition de cette opération a débuté ce matin dans 38 piscines de France. Opération lancée par le Secours Populaire pour permettre aux enfants défavorisés d'apprendre à nager. Les stages durent une semaine, ils sont gratuits. 700 enfants au total y participent. Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Bonjour.
Vous êtes allée ce matin à la piscine de Bois-Colombes au nord de Paris.
À vos marques. Prêt, allez, hop voilà.
Et avant d'aller jouer dans la pataugeoire, les enfants âgés de 5 à 11 ans doivent faire leurs preuves dans le grand bassin.
Bon, on va dire qu'il panique un peu et après ça coule. Donc.
C'est le premier cours de natation que je fais aujourd'hui.
On va repartir sur une longueur. Vous mettez la tête dans l'eau, vous comptez jusqu'à 5 et ensuite vous respirez.
Payer des cours de natation, c'est assez cher, donc c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un stage de natation de 5 jours gratuit.
Le Secours Populaire et ses partenaires fournissent donc aux enfants des maillots de bain, des bonnets et lunettes. Christian Lampin est secrétaire national de l'association.
Pourquoi ils font pas de sport? Parce que c'est trop loin, parce qu'ils ont pas le temps, parce que c'est pas la priorité, parce qu'ils ont pas l'argent. Et donc évidemment, ils sont un peu exclus aussi du dispositif et là, il faut vraiment faire en sorte qu'ils viennent à la piscine.
Et la plupart des enfants présents n'y vont d'ailleurs que grâce aux sorties scolaires. Et ce n'est pas assez pour apprendre à nager, nous dit Jérôme Inieva, il est maître nageur à Bois-Colombes.
À l'école, en réalité, ce qu'on va apprendre, c'est plutôt les dangers. Ce qu'il faut faire et pas faire, c'est vraiment le tout début de l'enfant. Je saute dans l'eau et je reviens en bord. Parce que quand on arrive à l'école, c'est vraiment très très difficile de faire du cas par cas.
Allez, on pousse, on pousse, on pousse.
Et selon la Fédération française de natation, un enfant sur deux seulement entre en sixième sans savoir nager.
Après l'eau, l'air, il n'a jamais été aussi pollué par le dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre. C'est l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, qui l'affirme avec les chiffres de 2015, à savoir une teneur moyenne dans l'atmosphère de 400 ppm. Ça ne vous dira rien comme ça, mais c'est un seuil record symbolique, dit l'OMM. En fait, ce seuil avait déjà été atteint à certains endroits, mais jamais encore à l'échelle du globe. Ne dites pas ping-pong, mais tennis de table. Vous avez peut-être admiré au dernier Jeux Olympiques, les champions de cette discipline très sportive, qui évidemment n'a que peu de rapport avec ce jeu pépère pratiqué dans les garages ou sur les terrasses. Eh bien, nous avons désormais un champion d'Europe de la discipline, le premier depuis 40 ans, depuis Jacques Secrétin. Il s'appelle Emmanuel Lebesson, il a conquis son titre hier à Budapest, face d'ailleurs à un autre Français, Emmanuel Lebesson, qui n'en revient toujours pas.
Je réalise pas encore. Ce matin, j'ai essayé de regarder un petit peu tous les articles qui ont été faits et je me dis, est-ce que c'est vraiment moi qui ai joué hier? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai été chercher ce titre? Et non, c'est vraiment un sentiment incroyable. Je vais réaliser, à mon avis, dans quelques jours, mais je me dis que c'est voilà une énorme surprise pour beaucoup de gens, mais aussi une surprise pour moi parce que je suis sorti d'une période assez compliquée après des Jeux, on va dire, où je suis passé à côté et 40 ans après, Jacques Secrétin rentrer dans l'histoire et me dire, voilà, je suis champion d'Europe. C'est un sentiment incroyable.
Est-ce que cette médaille d'or et cette médaille d'argent représentent le véritable niveau du tennis de table français?
Je pense pas. Il faut être honnête. On aurait signé pour une médaille en individuel ou en double à la base. Voilà, c'était déjà très bien. En individuel, on n'avait jamais fait de médaille. Pas de médaille depuis 1998 et Jean-Philippe Gatien. Aller chercher des titres, bien évidemment, c'était au-delà de toutes nos espérances. Mais de se positionner en tant que médaillé européen chaque année, ça me paraît quelque chose maintenant d'envisageable.
Emmanuel Lebesson, au téléphone de Fabrice Abgral. Un entraîneur de rugby qui valse, et pas n'importe lequel, le mauvais début de saison de Toulon aura été fatal à Diego Dominguez, mis à pied ce matin par son président Mourad Boudjelal. Dominguez écarté en raison du jeu produit sur le terrain qui ne correspondait pas aux attentes. Il sera remplacé tout de suite aujourd'hui par Mike Ford, l'entraîneur des lignes arrières. On termine avec un peintre à découvrir. C'est au Palais du Luxembourg, une exposition sur Henri Fantin Latour. On connaît ses portraits de groupe qui sont dans tous les livres scolaires où sont réunis Monet, Manet, Renoir, Zola ou Verlaine et Rimbaud, mais son œuvre ne se résume pas à cela. Fantin Latour reste un artiste méconnu qui toute sa vie s'est interrogé sur l'art. Jacqueline Pétrose.
L'exposition est sous-titrée « À fleur de peau » et c'est bien ce que l'on ressent en admirant ses autoportraits. Fantin Latour a l'œil sombre, le regard volontaire, presque buté. On l'entend penser, douter surtout. Il y a tant d'artistes en lui. Celui des portraits de bourgeois, austères et peu souriants. Celui des bouquets de fleurs si lumineux ou des portraits intimistes. Toujours entre nature et vérité. Laure Dallon, commissaire de l'exposition.
Ce qui est particulièrement intéressant avec Fantin Latour, c'est qu'on a affaire à un homme qui était à la fois dans son temps et hors de son temps. C'est-à-dire qu'il a vraiment côtoyé tous les artistes de son époque, tous les noms que l'on connaît encore. Mais en même temps, il a toujours été très indépendant, foncièrement indépendant, toujours un petit peu à côté. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais suivi les modes, qui a toujours fait les choses comme il en avait envie, quitte à être encore plus solitaire finalement.
Et les dernières toiles créent un lien surprenant avec le symbolisme.
Il y a vraiment quelque chose de visionnaire chez cet artiste. Alors effectivement, on retient le caractère austère, un petit peu classique de sa peinture. En fait, sous le vernis classique, on trouve souvent beaucoup d'audace et de nouveauté. nouveauté. Et c'est le cas avec cette peinture onirique qui effectivement anticipe le symbolisme de plusieurs années.
Cette exposition montre avec évidence qu'il faut toujours en art aller au-delà des préjugés.
Fantin Latour au musée du Luxembourg, c'est jusqu'au 12 février.